La bande du jeudi avec Raiffeisen et ses nombreux avantages Member Plus, destinés aux sociétaires et aux jeunes jusqu'à 26 ans. Raiffeisen, ouvrons la voie.
La bande du jeudi.
La bande du jeudi.
4 matchs, 4 défaites, pas le moindre point, dernier du classement. Début de saison cauchemar pour le HC Ajoie. Les Wivres ont manqué leur premier match, connaissant de grosses absences chaque soir, sans qu'on assiste à une véritable révolte. Dans ce deuxième podcast de la saison, on va revenir sur cette entrée en matière catastrophique. On décernera tout de même les étoiles aux joueurs qui sont sortis du lot. Une épine aussi. Et on fera plus ample connaissance avec un nouveau venu dans le vestiaire des Jaunes et Noirs, Louis Robin, qui est notre invité. En fin de mission, on va se projeter sur l'avenir, bien sûr. Un face-à-face spécial joueur étranger et notre nouveau quiz. Bienvenue.
La bande du jeudi.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de la bande du jeudi. Salut Rafi, salut Julien.
Salut Cyprien, salut Julien.
Salut tout le monde.
Ça vous fait bizarre de ne pas voir Michel Lioni? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Comment c'est possible que déjà la deuxième fois, il n'est pas là? Non mais les gars...
La pression, je pense qu'il ne se rend pas compte du...
On l'a intimidé peut-être, ouais, déjà, d'entrée ça. Là.
Hein. Ouais. En tout cas, il m'a demandé une semaine de vacances, il m'a dit écoute, il faut vraiment que j'ai une semaine là. Du coup, je prends la place, ça ne vous dérange pas?
Mais t'es le bienvenu.
Alors, avec plaisir. Michel, donc, qui est absent, mais qui reviendra pour les prochains numéros de ce podcast dédié au HC Ajoie. Merci de m'accueillir. Vous vous étiez quitté il y a 2 semaines avec l'espoir d'un début de saison rassurant, convaincant. Bon, ben, on en est loin. Hein, on va y revenir, évidemment, dans ce podcast. Et on accueille surtout Louis Robin. Salut, Louis.
Salut.
Bienvenue à toi dans cette émission. Comment tu vis ce début de saison très compliqué pour l'équipe?
Bah, pas comme on l'avait espéré, en tout cas, ça c'est sûr, mais il n'y a que 4 matchs, donc il y a encore de l'espoir et des choses à améliorer, mais ouais, c'était pas le début qu'on avait espéré, en tout cas.
Le débrief.
Cyprien, c'est à toi que revient l'honneur de distribuer les étoiles pour ce début de saison. Mission importante, mais mission délicate quand on sait que le HCA nous a pondu un 0 planté après ces 4 matchs. On est curieux de savoir qui tu nous mets en évidence. Et après, on t'écoutera aussi nous dévoiler le joueur qui reçoit de ta part une épine, puisque c'est la nouveauté de la rubrique. Alors Cyprien, on écoute tes étoiles.
Ben, c'était pas si simple que ça, hein. Très honnêtement, les gars.
Mais courage.
J'aurais presque préféré avoir 3 épines et une seule étoile à décerner. Mais je me suis quand même tenté. Alors, je vais vous donner les 3 étoiles. Et puis après, on en dissertera. On garde l'épine pour plus tard. J'ai mis 3 étoiles à Marco Pedretti. 2 étoiles à Benjamin Kons. Et 1 étoile à Kylian Bernasconi. Voilà mes choix, je vous les explique puis on disserte, ça vous va
ou... On t'écoute.
Marco Pedretti, 3 étoiles parce que j'estime que c'est à peu près l'un des seuls joueurs qu'on ne peut pas véritablement blâmer depuis le début du championnat sur ces 4 matchs. Pour moi, il a réussi son retour au HC Ajoie, il a marqué 2 buts, il a marqué un but où on a senti cette hargne d'Ajoulo, même s'il y avait déjà 4-0 pour Lausanne. Moi, j'étais juste derrière, j'ai bien vu, il y avait ça qu'on n'a pas encore assez vu dans les autres attitudes de joueurs. Il avait le casque jaune du côté de Rapperswil, quelque part c'était mérité, mais surtout pour moi, il a réussi son retour à Porrentruy sur ses 4 premiers matchs, il sort un peu du lot quand même, Marco. Voilà pourquoi j'y mets tout simplement 3 étoiles.
Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Ce chandail de top scorer mardi soir à Rapperswil était mérité. Moi je trouve qu'on le redécouvre même. Et puis peut-être que lui-même aussi il se redécouvre avec ce but en power play qui est quand même quelque part un but qui veut dire quelque chose. Cette position devant le but qui peut lui permettre d'aller enfiler quelques goals durant la saison. C'était une position qu'il n'avait pas eue ces dernières saisons à Lausanne notamment. Et c'est bien de voir Marco Pedretti comme ça incisif.
Julien. Oui, il retrouve des responsabilités, plus qu'à Lausanne la saison passée, et puis c'est ce qu'il cherchait, puis il les prend. Donc c'est bien, et puis c'est un choix qui est légitime, qui est logique à mes yeux, oui.
J'enchaîne avec Benjamin, où on fait déjà réagir Louis, qui est lui aussi attaquant sur ce choix de Marco Pedretti.
Non, bah, honnêtement, je suis assez d'accord avec tes choix, surtout que Marco, là, dernièrement, c'est si ce n'est que qu'il travaille fort à tous les matchs, mais il a été récompensé justement par des goals dus à son travail qu'il a fait à chaque match. Puis ouais, comme tu as dit, déjà qu'il apporte aussi dans le vestiaire un esprit à Ajoulo, un vétéran qui connaît bien la Ligue et toutes ces choses. Donc je suis assez d'accord avec tes étoiles.
J'ai mis 2 étoiles à Benjamin Kons. parce que j'ai trouvé que Benjamin Kuntz avait lui aussi plutôt réussi son début. Alors, surtout à Fribourg, à Bienne, c'est clair que le mardi à Rapperswil, c'était plus dur pour lui. Voilà, bon, il a un but sur la conscience, mais le reste, pour moi, il s'est fait fusiller. Donc, il ne pouvait pas faire franchement grand-chose. Et lui aussi, c'est un retour, voire c'est même une arrivée, si on veut, hein, dans le monde des adultes, avec le maillot du HC Ajoie. Il ne l'a jamais porté. Il a quand même une certaine forme de pression. Rafit avait fait ta série, c'est le retour de l'enfant prodige. Ce n'est pas tout simple pour lui de revenir. Et pour moi, il livre la marchandise sur ce début de saison. Ça fait mal d'avoir 20 buts encaissés et d'avoir un gardien, entre guillemets, aussi bon, parce que franchement, on ne peut pas lui imputer grand-chose à Benjamin depuis le début de la saison. Et voilà, je trouvais qu'il méritait aussi 2 étoiles, je ne sais pas, Julien.
Oui, donc, à qui d'autre finalement hein. On aurait pu les mettre. Effectivement, il a pas, comme tu l'as dit, à part un but mardi à Rapperswil, il a fait le boulot. Et puis un but sur la conscience. Quel joueur n'a pas une action, un fait de match ou aussi les responsables de quelque chose. Donc voilà, c'est plus visible pour un gardien. Mais oui, moi je suis content de les retrouver comme ça au sommet un peu de ton classement là, des étoiles, ces deux joueurs. On attend d'eux, et puis pour l'instant, en tout cas sur ces 4 premiers matchs, ils livrent, peut-être contrairement à d'autres, ou plus que d'autres, la marchandise.
Ouais, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai juste un petit regret, c'est de ne pas avoir vu Benjamin titulaire pour le premier match à domicile de HC Ajoie vendredi soir quoi, contre Lausanne. Ça aurait été bien, à mon avis, de l'aligner ce soir-là et d'inverser peut-être avec Damiano Ciaccio samedi à Bienne. Voilà.
Un duo de gardiens qui vous satisfait dans le vestiaire, Louis, les deux gardiens?
Ouais, franchement, ouais. Bah, comme tu l'as dit, début de championnat, Kuntz, il a commencé très fort. Il a su prouver aussi contre Rapi, malgré, ouais, comme vous l'avez dit, un goal, peut-être sur la conscience et encore. On n'a pas tout le temps été là pour l'aider, je pense, mais et Ciaccio aussi qui n'a peut-être pas eu son meilleur match, mais je pense que les deux, s'ils sont en forme, on a très bon gardien dans les goals.
Et du coup, la 3e étoile, je l'ai mis à un autre gardien, celui qu'on n'avait pas vu venir, mais j'avoue que je n'avais pas trop d'autres joueurs en tête en me disant, tiens, il mérite une étoile. Et pourquoi Kylian Bernasconi prend une étoile? Parce qu'il n'a pas pris de but. Tout simplement. Moi, j'ai trouvé qu'en fait, il a fait un blanchissage sur le dernier tiers à Rapperswil, et c'est un blanchissage qu'il a mérité parce qu'il allait le chercher. Il a fait des arrêts propres, avec la mitaine, avec les jambières. Finalement, pour un premier parcours en National League, sortir un blanchissage dans un match aussi difficile que celui-là, je trouvais que ça justifiait une dernière étoile.
Voilà. Oui, c'est un petit peu un choix par défaut, c'est ça?
Alors, mais il y avait un petit peu ça, mais quelque part, il la mérite quand même, je trouve, cette étoile, parce que ce n'est pas tout simple non plus. Là. Un baptême de feu en National League, 20 minutes dans un match qui est déjà perdu d'avance, et tu fais 0 derrière. Moi, j'ai trouvé que pour un gardien, c'était pas mal. Voilà, cette étoile à Kylian Bernasconi. Reste l'épine, alors, maintenant.
On t'écoute.
J'ai choisi Jerry Turkulainen, parce que on ne l'a encore pas vu. Pour moi, on ne l'a pas vu. Et Julien Vauclair avait quand même bien expliqué que ce trio finlandais tournait autour de Jerry Turkulainen. Et pour l'instant, il ne répond pas aux attentes sur la glace. Je lui accorde l'épine du coup. Mais j'ai quand même un argument de circonstances atténuantes qu'on ne voit peut-être pas ou peu. Et peut-être que toi, Louis, tu pourras nous expliquer un peu ça. Parce qu'en fait, Jerry Turkulainen, il ne faut pas oublier qu'il n'a jamais fait sa valise. C'est la première fois de sa carrière que le gars, il a pris sa valise et il est allé voir ailleurs. Il a fait toute sa carrière junior dans son club, il est resté dans son club. Et c'est un petit peu comme si on disait à Thibaut Frossard, maintenant tu vas jouer en Finlande. C'est pas tout simple pour lui d'arriver comme ça, nouveau pays, nouveau championnat, etc. Donc, circonstances atténuantes, mais quand même, j'estime que vu comme on nous l'a présenté, on est en droit d'attendre un peu plus d'impact sur le jeu de la part de Jerry Turkulainen. Voilà pourquoi l'épine.
Oui, c'est compréhensible. Tu mentionnes Turkulainen, tu aurais aussi pu mentionner un des deux autres Finlandais, parce que dans l'entier, c'est ce trio finlandais qui nous faisait miroiter bien plus que ce qu'ils ont produit pour l'instant, en termes d'impact dans le jeu, en termes de points, tout simplement aussi. Donc c'est vrai qu'on attend plus de Turkulainen, qui moi aussi je l'ai trouvé très effacé sur ses premiers matchs de championnat.
Qui s'était vu décerner 3 étoiles, ne me trompe pas là, il y a 2 semaines.
Donc, je lui ai donné des étoiles parce qu'il avait, ouais. il avait été plutôt.
Préparation qui était plutôt encourageante.
Pas mal. Hein, ouais.
Louis, peut-être juste pour conclure ce débrief, Turkulainen, avec l'argument aussi du voyage, comment est-ce que toi tu perçois tout ça?
Je pense que c'est aussi quand même un facteur à prendre en compte, sachant qu'il n'est jamais parti de chez lui, il a toujours été un peu peut-être dans sa zone de confort où il était en Finlande, puis là c'est la première fois qu'il va dans un autre pays, nouvelle ligue, des nouveaux coéquipiers, une nouvelle langue. Donc c'est sûr, je pense qu'il faut quand même laisser un petit temps d'adaptation pour qu'il s'acclimate à la ligue, au système de jeu ou comment on joue en Suisse, vu que c'est, je pense, différent comme il joue en Finlande. Mais en tout cas, je pense que c'est un bon joueur. Puis je pense que si on lui laisse un peu de temps, qu'il s'adapte d'ici les prochains matchs, il va être bon.
Sur le grill. C'est toi, Rafi, qui nous présente aujourd'hui notre invité du jour, Louis Robin, nouveau venu dans le vestiaire du HC Ajoie.
Salut Louis, re-salut, ça va, pas trop stressé ?
Non, hein, ça va, franchement.
Tu passes un bon moment avec nous, là.
Ouais.
On va le dire, c'est une première pour toi dans un environnement radiophonique. Un peu normal, hein, tu es un jeune joueur, et le public jurassien, finalement, ne sait que peu de choses sur toi. On va donc essayer de mieux faire ta connaissance via ton parcours de vie, ta carrière de hockeyeur. Tu es né à Yverdon.
Exact.
Voilà, tu as commencé le hockey au bout du lac. Pourquoi le hockey ? Tu as essayé d'autres sports avant cette pratique-là ?
Ouais, alors j'ai commencé à jouer au foot d'abord, parce que mon papa était coach de foot et puis mon grand frère joue au foot. Donc c'est sûr, ça, j'ai tout de suite été dans le foot. Et le hockey, ça s'est venu un peu par après, mais c'est un peu tout bête. Mais à Yverdon, comme on a eu le tournoi à Yverdon, il y a la piscine qui est juste à côté de la patinoire. Puis quand j'étais petit, j'allais beaucoup à la piscine. Et il y a des fenêtres, donc je voyais tout le temps par la fenêtre les camps de hockey jouer. Et puis je me suis dit une fois, pourquoi pas essayer. Puis une fois que j'ai été sur la glace, ça a été compliqué de m'enlever, donc j'ai tout de suite accroché.
Magnifique. On peut résumer ton profil de joueur par trois grandes décisions, des tournants de carrière, des prises de risques qui disent beaucoup de ton envie d'avancer en tant que joueur de hockey. Tu m'interromps si je dis des bêtises. La première en 2018, tu as 15 ans et tu décides de quitter l'organisation du Lausanne Hockey Club pour celle de Zoug. La deuxième, en 2021, tu as 18 ans et tu franchis l'Atlantique pour jouer deux hivers aux Ligues Juniors, Rimouski, Shawinigan et à Val-d'Or. Et enfin, en 2024, l'arrivée au HCA, 21 ans. Tu as vu du pays, enfin des pays même. On revient à tes 15 ans, quitter Lausanne. Je crois que tu jouais à l'époque avec des Baragano, Voirdou, Rochette aussi, c'est ça ?
Bougro, puis Pache aussi.
Ouais, une sacrée équipe hein, pour aller à Zoug. C'est quoi ta motivation d'aller en Suisse centrale à cet âge ?
À cet âge-là, c'était surtout axé sur, pas forcément le hockey, mais aussi dans le monde professionnel à côté. Et Zoug m'avait approché avec leur académie et tout leur système de pouvoir faire ton apprentissage ou des études tout en jouant au hockey. Puis c'est eux qui s'occupent de tout, qui essayent d'arranger au maximum pour que le planning passe au mieux. Et puis je pense que c'est surtout ce qui a fait pencher la balance, de pouvoir tout autant faire mon apprentissage et jouer au hockey sans avoir besoin de me soucier de beaucoup de choses.
Centre de formation de Zoug, c'est vraiment le NEC le plus ultra en Suisse ?
Je pense aujourd'hui, ouais. Franchement, niveau infrastructure, surtout avec l'OIM, leur nouveau centre, qui est, je pense, en Europe, c'est même pas forcément comparable avec toutes les installations qu'ils ont, c'est assez... assez bluffant, donc je pense en Suisse en tout cas c'est le meilleur.
Et tu maîtrises le suisse allemand maintenant ?
Ouais.
C'est bien, ouais. Et à 18 ans, c'est l'option canadienne qui est privilégiée. Là encore, avec quelle motivation de quitter Zoug justement et ce cadre qui était plutôt là pour t'épanouir, pour partir en Amérique du Nord ?
Aussitôt que j'ai signé à Zoug, j'avais aussi comme objectif d'un jour, si je pouvais aller jouer en Ligue Junior Majeure, peu importe. Dans l'Ontario, l'Ouest ou bien au Québec. C'était pour moi un objectif. Parce que quand on y pense, c'est une expérience que tu peux faire de tes 17, 18, 19, 20 ans. Même encore à 20 ans, c'est compliqué. Puis je voulais aller parce que c'est une des meilleures ligues juniors au monde. Et moi, je voulais m'affronter un peu aux meilleurs joueurs de mon âge pour un peu voir réellement... Est-ce que c'est du vrai niveau ?
Et ton style de joueur était fait pour ce hockey nord-américain ?
Je ne sais pas s'il était fait, oui ou non, mais en tout cas, j'ai appris et j'ai su m'adapter parce qu'au début, avec la petite glace, ce n'était pas facile. C'est un jeu qui est quand même différent, ça va plus vite, ça frappe plus. C'est pas mal d'adaptation, mais il m'a fallu, je pense, une dizaine de matchs. Puis après, c'était devenu normal, donc...
Et la saison passée, retour à Zoug. Voilà, entre les U20 et la première équipe. Dan Tagnes, le coach de Zoug, il te dit quoi ? C'est quoi ton rôle à l'époque ? Comment il te présente la suite de ta carrière à ce moment-là ?
Il n'y en a pas eu de très grosse explication ou présentation de ce que j'allais être un peu dans cette équipe. C'était un peu, bah, je ne pense pas que j'étais dans les gros papiers au début. Puis bah, fallait que je me prouve à chaque match pour avoir ma place dans le line-up chaque soir. Donc c'était un peu ça, quoi, d'être le meilleur que je pouvais être chaque soir pour espérer jouer le lendemain ou dans deux jours après.
Et tu marques ton premier but en National League face à Fribourg, Retobera, c'est ça ?
Exact.
Ouais, un moment particulier, j'imagine.
Ouais, bah, ça fait toujours du bien de marquer le premier. Je pense, bah, c'est surtout une délivrance un peu, parce que j'ai mis quelques matchs à le marquer, donc ça n'a pas été facile au début. Mais une fois qu'il est derrière, je pense que ça fait toujours du bien.
Mm-hmm. Et après, ben voilà, suite, c'est la fin de saison avec la Chaux-de-Fonds. Et puis maintenant, l'arrivée au HC Ajoie. Zoug ne te voulait plus ?
J'aurais pu re-signer une année à Zoug, mais j'ai pris du temps pour réfléchir. Puis je pense pour mon développement personnel, c'était une meilleure option de venir à Ajoie. Je pourrais avoir plus de temps de jeu que j'aurais espéré avoir eu à Zoug.
Mmh. Ouais, faire partie d'une des plus grandes organisations du pays et venir dans un petit club comme Ajoie, c'est pas un pas en arrière pour toi, alors ?
Non, certains peut-être le voient comme ça, mais pour moi pas. Comme on dit, c'est un pas en arrière pour en faire deux en avant, mais moi non, en tout cas, c'est pas un pas en arrière.
Louis, dans cette rubrique, on donne aussi l'occasion à nos auditeurs de te poser des questions. Je crois, Cyprien, c'est toi qui les a recueillies. On t'écoute.
Oui, on en a quelques-unes qui sont tout aussi intéressantes l'une que l'autre. On va peut-être commencer par le côté chronologique. Ouais. On était au Québec tout à l'heure. Il y a Joris de Delémont qui nous dit « Qu'est-ce que t'a apporté ce passage au Québec ?»
Bah, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais j'ai surtout grandi aussi en tant qu'être humain, d'être loin de sa famille avec 6 heures de décalage horaire. C'est pas toujours facile. Puis il y a eu des moments difficiles où j'ai peut-être moins joué que je l'espérais. Puis ouais, ça m'a montré la vraie concurrence, parce que quand j'étais en Suisse, en junior, sans forcément besoin de performer, j'allais jouer en power play ou j'allais jouer un peu les situations importantes. Puis quand je suis arrivé là-bas, bah, dans l'équipe, il y en avait 4-5 au même poste qui étaient autant bons que moi. Donc il fallait à l'entraînement déjà maintenant que je performe, que je montre au coach que j'ai ma place. Donc réellement, c'est là où ça m'a un peu montré le vrai, comment dire, pas une rivalité, mais la concurrence.
Dans ton parcours, il y a beaucoup de mouvements finalement. Tu es un jeune Vaudois, tu es parti en Suisse alémanique, tu es parti au Québec, maintenant tu es dans le Jura. C'est assez atypique quand on est jeune Vaudois. Ça vient d'où ? C'est l'éducation de tes parents qui t'ont donné envie d'aller voir ailleurs, un peu dans différents endroits, que ce soit du pays ou du pays du hockey, j'ai envie de dire ?
Non, mais ils m'ont toujours soutenu, puis ils ont toujours gardé la meilleure option pour moi. Ça, c'était peut-être pas dans les alentours où j'étais, donc ils m'ont toujours poussé à aller où c'était le mieux pour moi. Et bah, ça n'a pas été toujours la porte à côté, mais en tout cas, moi, ça ne m'a jamais posé de problème d'aller où que ce soit.
Globetrotter, peut-être. Il y a deux autres questions qui sont venues aussi. C'est Stéphane de Porrentruy qui nous dit, qui te dit à toi, « Salut Louis, j'ai beaucoup aimé ton implication durant la préparation. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'as pas joué vendredi contre Lausanne ? Choix du coach, point d'interrogation.
» Choix du coach.
Point d'exclamation.
Ouais.
Alors, du coup...
On ne te demande pas de développer. Hein.
Mais par contre, on a une question subsidiaire et que tu as vu différemment. C'est une question c'est Lucie qui nous dit « Robin, que penses-tu de l'ambiance dans la Raiffeisen Arena ?»
Superbe. Bah, malgré que j'étais dans les tribunes, mais j'ai quand même été au match. Et ouais, quand on voit l'ambiance... L'engagement des gens, même s'ils ne sont pas sur la glace, tu vois qu'ils ont vraiment... ça leur tient à cœur, quoi, qu'à jouer face des bons résultats, qu'on joue bien. Donc, on se doit, entre guillemets, de leur remettre ça sur la glace.
Oui, on va revenir un petit peu sur toi. Là, t'es pas grand, lui, 1m75, 1m76.
Ouais, à peu près.
À peu près, entre les deux. Voilà. Tu n'es pas lourd non plus. Non. J'ai regardé les statistiques. Tu es un des trois joueurs les plus légers de la Ligue. Tu sais qui est le joueur le plus léger ?
Le plus léger, Martinet.
Ouais. C'est ton ancien coéquipier Azouk, c'est un petit peu un modèle pour toi.
Ouais, clairement. Clairement, d'avoir pu jouer l'année passée à ses côtés, c'était un super privilège juste de pouvoir apprendre de lui rien qu'en le regardant. Bah, ça reste un des meilleurs joueurs de la Ligue, je pense, aujourd'hui. Puis aussi comme personne super, super sympa et super ouverte.
Ton gabarit dans cette Ligue, c'est un handicap ou bien c'est plutôt une chance?
Une chance, je pense.
Pourquoi?
Parce que je préfère être, comme je le suis, petit et rapide, un peu vigousse dans les coins qu'être grand et avoir de la peine à me tourner.
Bon, ce début de saison, on sait tous, hein, c'est pas foufou, comme si vous, les joueurs, vous aviez fait un vœu de chasteté offensive. Mais toi, d'un point de vue perso, tu es le cinquième joueur du HCA à obtenir le plus de chances de but, là. Comme contre Bienne, là, cette chance au début de match, là, que quand tu repenses, ça t'énerve un petit peu, là, cette occasion que tu as là.
Un peu beaucoup, ouais. Mmh.
T'aurais dû faire un geste différent quand tu y repenses, là.
Bah, j'aurais peut-être dû essayer de la, parce que j'ai voulu la mettre juste en dessus de la jambière, puis j'aurais peut-être dû voulu la lever, ça aurait la mettre au premier poteau en haut, ou peut-être la décaler parce qu'il est quand même sorti assez loin. Peut-être si je la décalais sur mon back-end, c'était peut-être une meilleure chance de marquer.
Tu as signé au HCA en même temps qu'Arnonius Baumer, hein, ton ancien coéquipier Azouk. Lui, il a un contrat de 2 ans.
Ouais.
Toi, une année.
Ouais.
Pourquoi seulement une année pour toi?
Parce que je m'étais dit, on va se laisser une année pour un peu voir déjà comment j'évolue dans la ligue, si je prouve que j'ai ma place ou non, et de laisser la porte ouverte s'il y a des options ou bien si un joueur veut me re-signer. Donc, c'est vraiment une année un peu de transition, puis pour. Me prouver aussi à moi-même que je pouvais me faire ma place dans la Ligue.
J'ai vu que tu avais un point commun avec TJ Brennan. Tu sais lequel?
Non.
La couleur de ta canne.
Ouais.
Hein? Canne blanche également, pourquoi?
Ça, c'est quelque chose, j'ai commencé assez jeune, quand j'étais en U17.
Ah, c'est lui qui t'a recopié, alors?
Non, je ne le connaissais pas encore. Donc, et j'avais, je sais pas, ça m'est venu l'idée, j'avais dû voir sur des vidéos des joueurs en NHL avec une canne sprayée ou une canne blanche. Puis j'avais essayé de la sprayer. Et depuis ce jour-là, j'adore. Je trouve la sensation, et en tout cas moi je préfère. Puis c'est pour ça que là j'ai une canne blanche.
Le face-à-face.
Une question, 2 avis tranchés, 40 secondes pour les défendre. C'est le principe de ce face-à-face. Vous commencez à le connaître, hein, si vous écoutez la bande du jeudi depuis la saison dernière. Avec cette question aujourd'hui, attention, elle est très importante. Le HCA Joie et ses dirigeants doivent-ils réagir tout de suite en engageant un 7e étranger? C'est limpide, c'est clair comme question. Alors Julien, tu vas défendre le oui. Rafi, toi tu dis non. Et à la fin, Louis, tu peux évidemment te prononcer, mais ce n'est pas ce qu'on te demande, parce qu'on pense bien que ce n'est pas à toi qui va le dire. Mais par contre, tu pourras décerner le vainqueur de ce face-à-face au niveau des arguments de Rafi et de Julien, en fonction de ce qu'ils auront dit. Ça joue pour toi?
Ça marche.
J'en sors jamais vainqueur, en général, tu sais, de ce débat.
C'est sympa avec les questions avant, hein, avec les questions. Hein,
t'as vu, ah, ouais, voilà. Chacun tente de gagner la voix de Louis Robin. 6 clubs à 6 étrangers au début du championnat. Hein. Ajoie, Fribourg, Genève, Kloten, Lugano, Langnau. Tous les autres en avaient plus. Julien, 40 secondes. Oui, Ajoie doit engager tout de suite un 7e étranger. Pourquoi?
Ah, il y a 2 semaines, j'aurais répondu non. Mais en l'état actuel des choses, je vais un peu revoir ma position. Parce qu'on n'est pas à l'abri déjà d'un pépin physique qui peut survenir à tout moment. Vu sa situation, le HCA peut-il vraiment se permettre de proposer un alignement incomplet dans sa légion étrangère? Au regard du rendement des 6 étrangers lors des 4 matchs disputés, ne serait-ce pas l'occasion d'offrir une alternative à Volvend et de mettre un tantinet de pression sur les 6 étrangers actuels? L'engagement d'un 7e étranger ferait office de gage de sécurité. C'est également un luxe que le coaching staff doit avoir dès à présent.
T'es même en dessous des 40 secondes.
Oh, je me suis amélioré depuis l'année passée.
Dis donc.
Moi, je me suis fangulé plusieurs fois.
Donc, je peux récupérer les, ouais, les secondes bonus, là.
Rafi, oui, tu peux prendre 3 secondes bonus, si vraiment c'est ce que tu veux, Rafi. Toi, tu dis non. En gros, faut pas engager un 7e étranger tout de suite.
Ouais, pour moi, c'est non, tout simplement parce que c'est une question de timing. C'est facile de le dire ainsi aujourd'hui, mais l'erreur, à mon sens, c'est de ne pas avoir embarqué au début de saison avec 7 mercenaires, comme l'ont fait, tu l'as dit, beaucoup d'organisations de la Ligue. Le HCA, ainsi, n'a pas d'option et pas d'atout supplémentaire dans son jeu, c'est vrai. C'est un sérieux handicap. Alors, pourquoi non maintenant? Parce qu'engager un mercenaire aujourd'hui, c'est prendre qui ? Un défenseur pour renforcer une arrière-garde qui pâtit du manque de leadership de Brennan ? Ou un attaquant, un centre pour donner plus de cours à l'offensive ? Imaginez, on prend un défenseur demain et Palvé est out après-demain. Ou on engage un centre vendredi et Brennan ne relève pas la tête samedi. Et encore, engager oui, mais pas n'importe qui. Alors en trois mots comme conclusion, ce n'est pas le moment de jouer la panique.
On est pile dans les 40 secondes, le timing commence à être vraiment maîtrisé. Dis donc, les gars, vous pourrez faire de la radio bientôt. Louis Robin, Rafi, Julien, il y en a un des deux qui t'a convaincu, plus que l'autre ?
C'était pas facile, franchement. Honnêtement, je saurais pas dire, parce que les deux arguments étaient bons. Donc, pour que les deux soient contents, ou peut-être pas contents, je vais dire une égalité, ce serait plus juste.
Bon, on la prend, hein.
Ouais. J'aurais presque une question subsidiaire. Proposé.
Oui.
Si septième étranger il y a, on va le chercher à quel poste ? On discute entre nous. Hein.
Moi j'irai. Enfin.
Ouais, je t'écoute, c'est pris.
Moi j'irai le chercher derrière.
Moi aussi.
Parce que je suis pour l'instant pas convaincu du nouveau top scorer du HC Ajoie.
Oui, c'est vrai. C'est Brennan.
Brennan sera top scorer vendredi. Mais dans l'absolu, Brennan ne me convainc pour l'instant pas, notamment dans la relance. On a encore de la peine à monter Spock, je trouve. Et puis, est-ce qu'on peut faire toute la saison avec un Brennan qui n'a jamais de concurrence pour sa place dans l'effectif ? Quand on a vu ce qui s'est passé l'année passée, personnellement, je ne suis pas convaincu. Alors oui, il est en fin de contrat à la fin de la saison, mais moi, s'il y a un septième, j'irais plutôt le chercher honnêtement derrière.
Moi, je vous entends, je vous comprends aussi. Puis comme je l'ai dit dans mon argumentaire précédemment, C'est une option d'aller chercher un défenseur. Le HCA a besoin de substances défensives supplémentaires, on l'a vu. Mais il ne faudrait pas aussi oublier que devant, les étrangers ne font pas le job pour l'instant également. Hein. Notamment dans des positions de centre, où on aurait peut-être besoin aussi peut-être d'un apport supplémentaire. Là, on est à 6 étrangers, 7, 8, peut-être, hein, prochainement.
Et après, il faut aussi peut-être faire confiance à ce trio finlandais qui doit peut-être leur laisser le premier tour pour voir comment est-ce qu'ils explosent peut-être au fur et à mesure des matchs. Ils sont les trois nouveaux, ce n'est pas nécessairement tout simple. Agir maintenant ou pas, bon, ben ça c'est finalement Julien Vauclair et le directoire qui a la réponse. Mais c'est vrai que ben, peut-être que les deux matchs de cette fin de semaine donneront... une ligne à suivre ou en tout cas des infos un peu plus précise, sur faut-il y aller tout de suite ou pas. Enfin, voilà, je sais pas, ça se discute pas ça dans le vestiaire, j'imagine.
Non, ça c'est comme tu l'as dit avant, c'est les choix de Vauclair. Nous, on se focus sur le jeu puis d'être le plus performant possible.
Dans l'œil de la vouivre.
Dernière partie de ce podcast, l'œil de la vouivre, c'est toi Julien qui va nous amener dans différentes questions. C'est la nouvelle chronique, c'est le nouveau rendez-vous de cette deuxième saison. On peut peut-être profiter quand même de leur présenter rapidement à celles et ceux qui nous écoutent.
Oui, tout à fait. Hein. Michel s'est coltiné à la tâche là, il y a deux semaines. Donc, je vous propose en tout cas aujourd'hui 5 questions en lien un peu avec les matchs à venir, les adversaires que le HC Ajoie aura affrontés lors de la prochaine quinzaine. Chacun peut répondre évidemment, Louis également, d'accord ? Vous me connaissez, j'ai ressorti mes statistiques.
Ouais, ce sera des questions faciles, quoi.
Peut-être pas, on verra. En tout cas, 4 matchs lors de la prochaine quinzaine. Ajoie reçoit Zoug demain soir avant d'aller défier Langnau samedi. La semaine prochaine, il accueillera Berne mardi, puis Kloten vendredi. 3 rencontres à domicile, un programme plutôt favorable pour le HCA qui plus est face à des adversaires contre qui il avait empoché une bonne partie de ses 39 points la saison passée. L'occasion, on l'espère tous, pour les attaquants jurassiens de manœuvrer la rondelle comme s'ils utilisaient un rouleau à pâtisserie, aplatissant les défenses qui leur feront face pour initier une jolie série de victoires.
Pas facile, facile à mettre au fond d'un but, un rouleau à pâtisserie.
C'est un peu ma considération poétique et culinaire. J'ai donc ressorti mes statistiques. Tu vois, Mathieu, je ne t'oublie pas. Pour vous cuisiner, quelques questions. Voici ma première. Combien de points Ajoie a-t-il emmagasiné au total contre ses 4 équipes, donc les 4 adversaires à venir, la saison passée ?
Oh là là, tu dois donc...
Plus ou moins donc, ou deux.
Rappel, Zoug,
la saison passée,
la saison passée, Zoug, Langnau, Berne et Kloten.
Moi, je dirais 14.
10.
Moi, je dirais 12.
Ouais, c'est Rafi qui est le plus proche. 16 points obtenus. Ouais, ouais. Okay. 6 obtenus face à Kloten, 4 Langnau, 3 Berne et Zoug. Voilà. J'ai fait une addition, j'ai sûr que je ne me suis pas trompé. Donc les 3 points, c'est la... Je rebondis pour ma deuxième question. Les 3 points de la victoire contre Zoug avaient obtenu le 19 janvier dernier à la Bossart Arena sur le score de 2-1. Au terme d'une grosse perf défensive, et ouais, ça rend certains nostalgiques un petit peu, de réussite inscrite coup sur coup par Frédéric Gauthier et Matteo Romanenghi dans le dernier tiers. Ouais, tu étais, donc tu sauras peut-être répondre. Question, combien de temps séparait le but du Québécois de celui du Tessinois?
Lui, tu étais sur la glace, à toi de répondre.
Une minute trente, je dirais.
Bien moins. 22 secondes.
22 secondes.
Ah, bah, c'est ce que j'allais dire.
Ouais. Attends, bah, je t'attribue un point, patron. Pas trop. 22 secondes.
Ouais, c'est allé très vite, c'est vrai.
Ouais,
c'est
44 et 45e ouais. minute. Donc, Oladia Joa aura aussi à scoltiner un déplacement dans les mentales. Une perspective qui peut apparaître comme ça un peu angoissante, hein, puisque Langnau est devenu imbattable sur sa glace. Davos en a fait les frais mardi, avec un cinglant revers 7-0. Question, à combien s'élève la série de victoires à domicile de Langnau en tenant compte de la fin du dernier championnat? Sur combien Langnau reste-t-il de victoires depuis la saison passée, à domicile?
Très bonne question. C'est une belle statistique, ça.
Depuis la saison passée?
Ouais.
Donc, ils en sont à deux matchs là, à domicile
deux
cette saison.
Deux matchs cette saison à domicile.
Et on doit additionner les victoires de la saison passée.
De la fin de saison passée, oui. Ouais. Ah, ils ont une belle
mais
série.
Ils en avaient fait une belle série parce que c'est un peu ça qui les avait éloignés de cette zone de play-out hein, sur la
les
fin du championnat.
Fort. En tout cas, à domicile, ils ont carburé fort en fin de championnat.
Donc, moi, c'est au bol, je vais dire 12.
Moi, je dis 10.
Ouais, quand même pas autant. Bien. Allez, 2 cette année, 5 l'année passée, 7.
On a un peu entre 2, 9.
Ah ouais, quand
donc,
même. Ouais,
Langnau reste sur
9. C'est Louis qui est le plus près.
9 victoires à domicile.
Et bah, c'est le bon moment pour les faire tomber,
on
non
on n'atteindra pas la 10e.
Parce que
alors, je considérais que les questions étaient plus ou moins faciles. J'avais prévu une un peu plus compliquée. Un peu plus compliquée. Donc, ce n'est pas un chiffre cette fois. Je veux le nom d'un joueur. Si un joueur s'est distingué par ses nombreuses pénalités mardi à Rapi...
Valentin Pilet.
Mais attends.
Yannick Fichet.
Non. Ne vous emballez pas. Il n'a pourtant pas pour habitude de traîner la réputation d'être une équipe particulièrement indisciplinée. Ce qui n'est pas forcément le cas de certaines formations et joueurs de National League. D'ailleurs, dans quelques jours, le HCA va retrouver face à lui le joueur le plus puni de la Ligue l'an dernier, qui a compilé 83 minutes de pénalité, dont 24 pénalités mineures sur l'ensemble du championnat. C'est pas rien. Peut-être l'occasion pour les Ajoulots d'augmenter leur taux de réussite en jeu de puissance. Est-ce que vous voyez à quel voyou, en façon de parler, hein, c'est pour la rime, je fais référence?
J'aurais dit Mourer, mais il est au HCA là maintenant.
Non, ce n'était pas Marco Mourer.
Moi, je pense peut-être.
Par contre, tu prends les initiales, tu seras juste.
Ah, je voulais dire Cadono à Langnau. Ah. Donc, ça commence par M.
Blanadis a rejoué l'année passée dans l'équipe la plus pénalisée de la Ligue, c'était Kloten. Il est passé à Berne cette année.
Marchand.
Très bien.
Ah oui,
Marchand. Bien joué.
Marchand.
Devinez, quel est le joueur bernois qui a concédé 3 pénalités mineures depuis la reprise?
Marc Marchand.
Ouais. Petite question en plus, hein, on se rappellera le souvenir, ça nous fera des souvenirs. Rafi, à Ajoie, c'était qui le joueur le plus pénalisé là, l'année passée? Kevin Fay. Kevin Fay.
Oui, mais c'est parce qu'il a pris une pénalité de match.
Ouais, j'aurais dit Eric Gélinas, peut-être.
Non, personne. Kevin Fay, 43 minutes, mais 9 fois 2 minutes.
Il y en a 27 contre Kloten. Hein.
Ouais. Par contre, il y en a un qui avait additionné les pénalités mineures. Quoi. Et ça nous avait fortement agacé, je m'en souviens, on en avait discuté. Toi, à qui je fais référence? Qui n'a pas fait tout le championnat, mais qui en a repris 15 quand même.
Ah oui, d'accord. On parle d'accord. du joueur qui a Kloten actuellement.
Non, notre cher Dmytro Timashov. Ah, oui. Voilà. Qu'a pas fait long, mais qu'on a additionné quelques-unes. Bien. C'est qui, je ne sais pas qui mène le. Je crois que c'est toi, hein, Louis, qui mène le classement.
Oui, il nous a battu un plat de couture.
Ça va les deux points.
Donc, dernière pour vous, messieurs. Combien de joueurs ayant porté le maillot du HCA évoluent désormais à Zoug, Langnau, Berne et Kloten?
T'en fais beaucoup.
J'espère que mon décompte est juste. Oui, j'ai fait ça rapidement. Et si ce n'est pas le cas, Les internautes n'hésiteront pas à adresser un mail de réclamation à cyprien.lovi@. Donc je veux le nombre de joueurs et les noms, s'il vous plaît.
Donc tu es en train de nous dire qu'on va croiser des têtes connues ces prochains jours,
voilà,
c'est ça?
Voilà, exactement. Bon, ouais, ils sont pas nombreux. Hein.
Daniel Audette à Kloten.
Ça fait un.
Tim Wolf-Hazoug.
Ça fait deux.
À Langnau, je suis plus sûr qu'il y en ait un maintenant. Que
pour il y a un Rohrbach.
Ah oui, Dario
Rohrbach.
Ouais, c'est une réponse collective. Il en manque un.
Il en manque qu'un.
Ouais.
On a dit qui alors?
On a dit Wolf, Rohrbach, Audette.
Il est dans quel club?
Il est à Kloten. Kloten aussi. Passage, remonte, il avait fait une saison complète. Après, il a fait une ou deux piges les saisons suivantes. C'était l'exercice 2016-2017.
Ah. Oh là là.
Bah, Ludo Weber.
Eh ouais, Ludovic Weber.
Oui, bien sûr.
Voilà, ça fait donc.
Ah ouais, ça fait 4.
Ça fait 4. Voilà. Victoire collective. Bravo, messieurs.
Faut toujours faire attention avec ce genre de référence parce qu'il y a toujours des joueurs qui ont joué un match par-ci.
C'est pour ça.
On a toujours tendance à les oublier.
J'ai pris des passettes, j'ai dit si quelqu'un découvre entre-temps un autre nom, c'est bienvenu qu'il nous en fait part. Donc on passe à la question pour les internautes.
Oui, okay, ça sera aussi la conclusion gentiment de ce podcast.
Exactement, c'est la petite cerise sur le gâteau de notre émission cette année. Mais avant cela, c'est le moment aussi d'annoncer notre premier grand gagnant du concours. Il y a deux semaines, Michel a posé cette question. Quel point commun y a-t-il entre Ati Hoskanen, le Finlandais du LHC, et Martin Filander, l'entraîneur du HC Bienne? La réponse... Ah tiens, tu l'as toi la réponse, Louis?
Non.
Ouais, je pense qu'ils ont dû gratter quand
même. On ne l'avait pas non plus.
On ne l'avait pas, non, je te rassure. Kevin Fay non plus a discuté, il ne l'avait pas. Donc ils étaient réunis la saison passée dans le club suédois de Oskarsham. Si je prononce juste, voilà.
Et qui gagne alors?
Oui, ça c'est aussi
c'est ça qui est intéressant.
Donc nous avons reçu près d'un millier de bonnes réponses, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est bien cela, messieurs, c'est vous qui récoltez les réponses. C'est la main innocente de Michel qui a récompensé Loïc Girardin de Glovelier, qui remporte un cadeau estampillé Bande du Jeudi. Loïc, félicitations à toi. On te contactera personnellement pour t'offrir ton joli cadeau.
Oui, bravo Loïc, parce que bravo, ouais. S'il avait l'info, ben un chapeau, et puis s'il ne l'avait pas, il a bien cherché.
Ouais, donc, ouais, exactement. Ouais. Voici ma question cette semaine. Dans le hockey, il y a de belles histoires de famille. C'est le cas chez les Schmutz, avec notre Reto Ajulo et son frangin Flavio qui évolue à Langnau. Alors, si les deux Turgoviens ne s'affronteront sans doute pas ce week-end, Reto soignant toujours son dos, ils partagent une passion commune. Outre le hockey, vous l'aurez compris, tous deux raffolent d'un mets qu'ils dévorent par kilo. J'irais même jusqu'à dire des dizaines de kilos chaque semaine, selon ce que mon enquête a révélé.
Oui.
C'en est presque une drogue.
On n'a pas le droit de donner d'indices, hein, c'est ça?
Alors, qu'est-ce donc que les deux frangins Schmutz engloutissent abondamment? Telle est la question de cette semaine, mais elle n'est pas facile, je l'accorde. Est-ce que j'ai le droit de donner un ou l'autre petit indice quand même?
Oui, je crois que ça serait bien, on t'écoute.
Donc c'est un mets sucré qui se mange principalement au déjeuner.
Ah bah on s'arrête là, hein, parce que sinon on commence à tout dire.
Et puis après on en dirait trois.
Parce que les Schmutz, il y a les pommes, hein, c'est des Turgoviens.
Ouais.
Et puis je crois bien que Reto, il mange toujours la même chose les jours de match, hein, si je me souviens bien.
Les fameuses pâtes au saumon, c'est ça?
Il me semble qu'il mange toujours la même chose les jours de
déjeuner,
match.
Déjeuner, hein, ça, il faut aimer. Quoi. Donc pour répondre, on vous renvoie au formulaire qui se trouve sur la page RFJ de la bande du jeudi. Ou à l'adresse bandedujeudi@lqj.ch. ou encore via un message WhatsApp à Rafi à envoyer entre minuit et 3h du matin au 07. Non, je m'arrêterai là. On serait de première référence.
Mais peut-être que
je serai capable de répondre. Quoi.
Peut-être que Louis sera le premier à savoir. Il va aller demander à Reto, dis, tu manges quoi tous les matins?
J'espère que je n'aurai pas de retour négatif de Reto, donc il se sera fait harceler de messages ou d'appels. Je vous rappelle le formulaire qui se trouve sur la page RFJ de la bande du jeudi ou à l'adresse mail bdj@lqj.ch.
Merci Julien, merci Rafi. On va gentiment conclure. On va surtout dire merci à Louis Robin d'être venu. On espère qu'il a passé un bon moment avec nous.
Bah, merci à vous. Ouais. Franchement, c'était super sympa.
Cette première expérience radiophonique.
Plutôt pas mal.
Eh bien, en tout cas, bonne suite de saison. On espère que les buts vont s'enfiler maintenant que tu as passé par ici. Et puis, si c'est le cas, on les invitera tous l'un après l'autre, les attaquants, pour que ça finisse au fond des filets. Merci Louis Robin.
Merci à vous.
Et belle suite de saison. Merci Rafi, Julien.
Ciao, ciao.
Et on rappelle que ce deuxième numéro de podcast, comme le premier avec Kevin Fay d'ailleurs, s'est retrouvé sur LQJ.ch, RFJ.ch et d'autres supports. On se retrouvera dans deux semaines, le 10 octobre, pour un prochain podcast, en espérant que le HCA aura accueilli quelques points. D'ici là, à bientôt.
La bande du jeudi, avec Raiffeisen et ses nombreux avantages Member Plus, destinés aux sociétaires et aux jeunes jusqu'à 26 ans. Raiffeisen, ouvrons la voie.